Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire, là.
C'est vraiment un avis, ce film.
Vous voyez, c'est tout à fait bouleversifié.
Cinéma! Cinéma!
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde!
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument.
Tous les jours, on en a plein les yeux. T'es là, ouf.
Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez le comptoir du festival, la déclinaison cannoise que vous connaissez désormais de votre émission d'actualité cinématographique, le comptoir du cinéma uniquement sur Transistor. Le comptoir du festival qui est donc installé à Cannes depuis 10 jours. Plusieurs épisodes ont été enregistrés qui vont paraître dans les semaines à venir. L'un, vous l'avez déjà écouté et vous lui avez fait un très bon accueil, chers auditeurs et chères auditrices. On vous remercie d'ailleurs pour ça. C'était le bilan de mi-parcours et les pronostics formulés par Aubry, Claire et moi-même. Claire est rentrée à présent, mais Aubry et moi, c'est la fin aussi pour nous de ce festival. Donc c'est à notre tour de vous soumettre nos réflexions, notre bilan sur ce festival 2026, ce 79e festival de Cannes. Et puis, tant qu'à faire, retenter un peu quelques pronostics, quelques souhaits mis à jour avec les films qu'on a vus depuis mercredi. Ce sera moins long parce que tout ne change pas, mais on a quand même quelques entrées fracassantes dans nos palmarès idéales. Voilà, on a dit au revoir à la Varda, au Grand Théâtre Lumière, à la Salle Buñuel et au Kiosque à Panini. La Palme d'Or a été remise et la corde de l'accréditation presse commence gentiment à nous irriter le cou. C'est parti pour le deuxième épisode du comptoir du festival. Aubry, ça y est, c'est fini, quasiment. Il nous reste deux films, qui peut-être d'ailleurs trouveraient une place dans notre palmarès idéal, on n'en sait rien. Il nous reste Histoire de la nuit et L'aventure rêvée, Das Geträumte Abenteuer, qu'on va voir tout à l'heure et ce soir. Mais à ce stade, qu'est-ce que t'as inspiré cette compétition, cette sélection officielle, ce festival de Cannes, et ces sélections parallèles, quinzaine des cinéastes, semaine de la critique, etc. On a beaucoup dit dans les émissions que vous allez entendre, chers auditeurs et auditrices, plus tard, donc, et puis on l'a un petit peu évoqué quand même dans l'émission qu'on a enregistrée mardi, que ce festival était tout de même marqué, du moins dans sa compétition, par une assez forte homogénéité de points de vue, de situations discursives des auteurs, des autrices qui nous proposaient des films et de leurs personnages, c'est-à-dire qu'on avait quand même une immense majorité de personnages bourgeois ou tout du moins aisés dans des pays du Nord, on va dire, voire des pays en immense majorité occidentaux, auxquels on pourra rajouter par exemple la Corée du Sud de Naong Jin. Ces personnages bourgeois, ils sont bien souvent des personnages d'artistes. Le festival aura interrogé notamment la valeur et la puissance éventuelle de l'art pour modifier la vie, la société, l'histoire, avec plus ou moins de succès. On pourra peut-être rapidement en dire un mot. Mais oui, globalement, que ça s'agisse d'une sculptrice dans Quelques jours à Nagui, d'un cinéaste dans L'être aimé ou dans le film d'Almodovar, Autofiction, que ce soit encore un photographe même dans un rôle secondaire dans Minotaure ou bien une romancière dans La vie d'une femme, et j'en oublie énormément, et bien des artistes sont présents dans ce festival. C'était d'ailleurs assez drôle de voir finalement le contraste qu'il y avait entre certains films assez presque hors sol, ou tout du moins dans lesquels cet arrière-plan socio-économique, les classes sociales, les classes de leurs personnages étaient presque des impensés, et un festival qui, plus ou moins malgré lui, s'est retrouvé au cœur de polémiques bien concrètes sur les conditions même de sa production, puisque peu de temps avant le festival, cette tribune Zappé-Bolloré a été signée par 600 professionnels du monde du cinéma, dont pas énormément de stars à ce moment-là. C'était surtout des monteurs, des monteuses, des techniciens, etc. Cette pétition, elle a pris une caisse, elle a trouvé dans le Festival de Cannes une caisse de résonance singulière, puisque le logo de Canal+, au lieu d'être applaudi sagement avec les autres logos de distributeurs et de producteurs au début des films, a régulièrement été hué, voire insulté. Et ces réactions, sans doute, ont, outre bien, de toute façon, l'emprise idéologique de Vincent Bolloré sur cette société, conduit Maxime Saada, le CEO de Canal+, à déclarer boycotter tous les artistes qui l'auraient signé. Depuis cette réaction à vif qui détourne de son sens une tribune qui visait spécifiquement Vincent Bolloré et non pas Studio Canal, eh bien, depuis cette réaction à vif, divers commentaires ont été prononcés au festival, plus ou moins maladroits, plus ou moins intelligents, plus ou moins nécessaires. Et d'autres personnes se sont retrouvées signataires de la pétition, parmi lesquelles des grandes voix, des grands noms d'auteurs, d'autrices du cinéma international. Donc, l'affaire ne fait que commencer globalement. Peut-être, j'en doute, mais peut-être est-ce là le prélude d'une restructuration plus globale de la production du cinéma français. Mais il était intéressant d'être à Cannes, au moins pour cela, dans une compétition qui, eh bien, on le verra quand on parlera des pronostics, mais n'a pas réussi, en tout cas à titre personnel, à m'emporter complètement, au moins pour un film. Quand bien même il y a d'excellents films en jeu, évidemment.
Ouais, effectivement, un truc qui nous aura marqué sur cette compétition, c'est sûr, c'est sans doute son homogénéité, comme tu l'as bien dit. En fait, c'est tout bête, hein, mais c'est qu'à notre échelle de spectateurs, en ayant enchaîné les films, il y a un moment où ça nous a quand même un peu barbé. Ce malgré en fait la qualité de nombreux films, effectivement c'était ça commençait à devenir assez énervant de voir revenir sans cesse les mêmes schémas, les mêmes personnages et les mêmes contextes,
voir les mêmes acteurs et les mêmes actrices, hein.
Voilà, voir les mêmes acteurs et mêmes actrices, parce qu'effectivement il y en a un certain nombre qui peuvent se targuer d'une double présence en compétition, mais sinon on a quand même eu pas mal de bonnes surprises. Pour le coup, on en avait déjà parlé dans la dernière émission, mais la déflagration Hope à mi-temps du festival a fait son effet, d'autant plus que le film est un peu resté tout seul dans son domaine, on va dire. Mais c'est vrai qu'à côté, ne serait-ce que par rapport à l'année dernière, en fait, on a quand même une compétition qui est très taillée pour les festivals. C'est vraiment des films de festival qui, entre guillemets, sont un peu aussi, enfin pour beaucoup, sont un peu construits quand même et taillés pour recevoir des prix, que s'agisse de prix d'interprétation, de prix de mise en scène, et ça se traduit, pareil là je te rejoins, ça se traduit par quand même une bonne partie des films qui, moi en tout cas, ne m'ont pas emporté. Il y a plein de films que je trouve super dans cette compétition, dont on va parler, dont on a déjà parlé, mais voilà, il y en a finalement très peu qui ont vraiment touché quelque chose de profond en moi, qui m'ont vraiment emporté plus que par un simple intérêt intellectuel, on va dire, ou critique ou académique. Après, ça reste une édition quand même assez cool du festival, je trouve, parce que ça nous a permis aussi d'aller faire quelques incursions dans les sélections parallèles. Moi, j'ai pas mal traîné du côté de la sélection Un Certain Regard, donc en sélection officielle, où j'ai pu découvrir des films certes assez décevants, mais d'autres bonnes surprises, parfois des premiers films. Notamment, c'était dans la sélection Un Certain Regard que se concentrait une bonne partie, sinon l'essentiel, des films africains de cette année. Et donc rien que pour ça, c'était quand même plutôt chouette de sortir des carcans très très classiques et au final très très connus de la compétition pour aller voir par là-bas. Alors, on est aussi allé voir un peu du côté de la quinzaine avec quelques films. Alors moi, j'ai eu un film qui m'a vraiment emmerdé, puis un autre dont on vous reparlera, qui nous a tous les deux un peu bouleversés. Et puis voilà, malheureusement, on n'a pas pu aller du côté de l'acide cette année. Moi, c'est un peu mon regret. Mais non, sinon, c'est quand même un festival, somme toute, plutôt réjouissant. Et surtout, moi, je suis très, très content d'avoir fait cette deuxième édition du Comptoir du Festival en votre compagnie. Ça a été vraiment très, très chouette.
Absolument, ça a été, là, effectivement, j'ai donné peut-être un petit peu l'impression de cracher dans la soupe au début, mais c'était c'est une expérience absolument fabuleuse que d'avoir pu être là, d'avoir pu couvrir ce festival en tant que journaliste. Enfin, le nombre d'accès auxquels on a eu à des séances, donc spécifiquement pour la presse, les conférences de presse, la terrasse des journalistes sur laquelle qui offre un espace de travail depuis lequel nous on est en train d'enregistrer, tout ça fait que de toute façon, quand bien même, bon, les films ne sont peut-être pas, ne nous ont peut-être pas à 100% convaincu, eh bien, c'était loin d'être 10 jours d'ennui, en tout cas. Bien au contraire, on est plutôt sur une espèce d'expérience unique. Et pour cela, on en profite pour remercier très fortement, encore une fois, Smila, la présidente de Transistor, Élise, la vice-présidente, et Corentin, le trésorier, qui, tous trois, nous ont permis de faire ce voyage, de faire ces reportages, et là, d'enregistrer actuellement cette émission. Enfin, voilà, il y a toute la semaine, tous les 10 jours, on n'a pas arrêté de se dire à quel point on avait une chance énorme et rien que pour ça, Cannes 2026, c'était vraiment super. Avançons pour parler du palmarès. Donc, il sera remis demain à 20h dans le Grand Théâtre Lumière par le jury de Park Chan-wook. On a fait quelques souhaits, quelques pronostics avec Claire. Cette heure des pronostics, on y revient aujourd'hui tous les deux. On va aller peut-être un petit peu plus vite parce que déjà on est que deux et qu'en plus certains, je le disais tout à l'heure, sont les mêmes. Commençons donc avec les prix d'interprétation et les prix d'interprétation, le prix d'interprétation masculine spécifiquement. Aubry, à qui tu souhaiterais qu'il soit remis et à qui est-ce que tu estimes qu'il sera remis, si tant est que ce soit deux personnes différentes?
Alors moi, ça a un petit peu changé par rapport à la dernière fois où j'avais ma hot take sur August Diehl. Mais on a découvert notre salut d'Emmanuel Mar hier soir en salle Varda. Et j'avoue que pour moi, le prix d'interprétation masculine pour Swan Arlo, c'est un peu une évidence. Entre guillemets, il est presque le film à lui tout seul, c'est assez fou. Voilà, et puis il est très très bon, quoi. Donc moi, ce serait vraiment mon prix de cœur. Après, je pense que pour un certain nombre de raisons, notamment le fait que, enfin, on en parlait avec Louis en off, c'est un film qui est très très français dans le sens qui touche en fait à une histoire très française en fait, et des problématiques très françaises. Enfin, on en discutait avec des confrères internationaux qui en fait avaient juste eu moins d'intérêt pour le film, moins accroché, avait moins saisi ses expérimentations aussi. Et en fait, en en discutant, on se disait avec Louis que ça pouvait tout simplement nuire au film vis-à-vis de la compétition. Du coup, moi, j'ai une espèce de double take pour le pronostic. Je vais rester sur mon Javier Bardem. Je pense que à côté de Swan Arlo, c'est sans doute celui qui a le plus de chances de choper ce prix d'interprétation là, et je mettrai juste un petit point d'interrogation sur le casting de La Bola Negra qui est passé en compétition hier et que malheureusement on n'a pas pu aller voir. Mais voilà, le film a reçu un accueil assez fort, notamment une standing ovation de 20 minutes, le record cette année est pas loin des records tout court, même si bon, on en fait ce qu'on veut des standing ovations. Mais voilà, je me dis qu'il y a un monde où ça peut aussi, enfin, ils peuvent aussi décrocher un espèce de prix d'interprétation pluriel, un peu comme l'avait fait Emilia Pérez il y a quelques années. Donc voilà, je reste sur Swan Arlo en choix de cœur et Javier Bardem en pronostic.
Merci beaucoup. Je te rejoins pour le souhait. Il me semble que Swan Arlo, voilà, bon, le film est fait pour lui. Il arrive à complètement être habité par ce personnage tout à fait veule et détestable, hein, qui est le protagoniste de notre salut. On en reparlera dans l'émission qu'on lui consacrera. Et je pense que son interprétation est telle qu'en tout cas, il pourra toucher le jury. S'il y a bien un endroit où ce film peut intéresser un jury international, c'est au niveau de l'interprétation de Swan Arlo, peut-être de la mise en scène. Mais donc, je ne vais pas plus élaborer sur mon souhait. En revanche, le pronostic, là où je diffère de toi, c'est que je pense qu'il peut donc l'avoir, Swan Arlo, qu'il peut l'avoir. Et je ne ferai pas intégralement une croix sur Dmitri Mazurov, qui est l'acteur principal de Minotaur, Andrei Zagintsev, donc un acteur russe qui n'est pas assuré de pouvoir retourner en Russie après avoir tourné avec Zagintsev, qui donc a suivi le casting dans, enfin, trouvé l'annonce du casting et puis a s'est déplacé en Lettonie pour le tournage de façon plus ou moins clandestine. Moi, je le trouve très bon en réalité. Je trouve que dans ce film, qui est un remake de La femme infidèle de Claude Chabrol, il arrive à la fois se situer dans la décembre de, dans la lignée de Michel Bouquet qui interprétait ce rôle donc dans La femme infidèle, et à apporter quelque chose en plus, quelque chose de même que Swanarlo d'ailleurs, d'une veulerie beaucoup plus profonde, d'une grande lâcheté qui tempère un petit peu la froideur qu'avait le personnage de Bouquet dans le film de Chabrol. Donc en plus de ça, il arrive à la fois être drôle à son insu ou non, à avoir des moments, voilà, d'humour très noir dans le film de Zagintsev qui sont loin d'être inintéressants, et surtout, voilà, quand bien même le film est sur lui et sa femme et son enfant et puis quelques autres personnages très secondaires, c'est bien lui qui porte intégralement le film avec cette espèce de d'assurance vulnérable, c'est-à-dire à la fois il est complètement toujours conforté par son statut matériel et économique, et en même temps, eh bien, il arrive à transmettre dans ses yeux, dans des fois de la sueur qui perle de son front, une angoisse perpétuelle de perdre ce statut dans le cadre de complètement chamboulé du début de l'invasion russe en Ukraine. Pour l'interprétation féminine, je vais aller vite pour te laisser la parole, Aubry. Je ne changerai pas d'avis sur le fait que pour moi, c'est Léa Seydoux dans L'Inconnu qu'il faut récompenser. Et je ne changerai pas non plus d'avis sur le fait que c'est Virginie Efira qui pourrait le remporter. Peut-être conjointement avec Tao Okamoto pour Soudain. Si on n'avait pas évoqué cette possibilité-là dans l'émission avec Claire. Mais en fait, je pense que voilà, leur duo fonctionne tellement bien. Et pour le coup, c'est un duo de deux femmes. Il pourrait donc être récompensé du même coup par un double prix d'interprétation féminine, ce qui est plus compliqué pour Renate Reinzwe et Sébastien Stan dans Fjord, Neil Schneider et Léa Seydoux dans L'Inconnu, etc. etc. Là, je pense que le duo de Soudain fonctionne très bien et est même une des forces du film. C'est-à-dire que c'est quand même, on l'a évoqué il y a deux jours, un film qui repose intégralement sur des gens qui parlent et qui parlent longtemps et beaucoup. Et si, à titre personnel, je ne me suis pas ennuyé pendant ma séance, quand même, j'ai mes réserves sur le film plus il vieillit, eh bien c'est aussi grâce au jeu des actrices qui arrivent à porter des dialogues parfois un peu étonnants ou dont on pourrait croire qu'ils manquent de naturel et qui arrivent à restituer par exemple très bien la fluidité d'une conversation nocturne qu'on peut avoir avec des gens en ayant l'impression que la nuit ne s'arrêtera pas. Donc je pense que ce sont elles deux qui vont le remporter. Ce serait pas démérité, mais voilà, Léa Seydoux dans L'Inconnu propose des choses si fortes que, à mon sens, elles le méritent plus.
Bah écoute, on va aller vite parce que moi je vais pas changer mon pronostic également. Je pense, je pense que Léa Seydoux va le remporter pour l'une ou l'autre de ces deux performances que je trouve très très fortes, donc dans L'Inconnu d'Arthur Harari ou Gentle Monster de Marie Kreutzer. Et je pense que le jury va faire de même. C'est vrai que pour le coup, il y a beaucoup de concurrence pour le prix d'interprétation féminine. T'as cité Virginie Efira et Tao Okamoto. On peut aussi citer Victoria Luengo dans L'être aimé, même Léa Drucker dans La vie d'une femme. Voilà. Donc ouais, mais je pense quand même que Léa Seydoux, elle a une longueur d'avance, et choix de cœur et pronostic Léa Seydoux.
C'est vrai que cette deuxième partie de compétition s'est plus révélée pour des personnages masculins que féminins, qui ont largement occupé et souvent très brillamment, même dans des films un peu plus mineurs, souvent occupé l'écran de ce festival. Alors, pour la mise en scène, pareil, hein, moi je pense qu'on... Enfin, à titre personnel, je pense que c'est Fatherland qui le mérite et c'est Fatherland qui l'aura. Parce que, voilà, ce qu'on disait sur la composition des cadres de Pavlikovski est très très intéressante, elle est très très puissante, et quand même, à mon sens, le film dépasse largement sa mise en scène. S'il y a bien un prix qu'il ne peut pas trop lui échapper, c'est celui-ci. Voilà, il arrive à faire des cadres qui sont parlants à la fois juste sur un simple plan esthétique. On a des images des photographies qui sont quasiment des, voilà, des photographies, des clichés, des reenactments de l'Allemagne en ruine de 49. Donc ça, c'est très fort. On a un très beau dialogue avec la mise en scène des films allemands de cette époque, des films de décombres qu'on appelle les Trümmerfilme. Et puis, juste indépendamment de ça, il arrive aussi à y greffer son propre style, sa propre patte pavlikovskienne, pourrait-on dire, du coup, ou eh bien voilà, dans l'arrière d'un cadre, un miroir, une fenêtre, une embrasure, d'un coup ouvre un vertige à la fois spatial et historique sur une forme de néant qui guette un petit peu l'Allemagne et les personnages envahis par un deuil plus personnel que la ruine de leur pays. Tout cela, on va en reparler bientôt dans l'émission sur Fatherland, donc je m'arrête ici. Mais à mon sens, c'est lui qui devrait l'avoir et c'est sûrement lui qui se retrouvera avec.
Bah écoute, je suis pas d'accord et j'ai un peu modifié mon prono de la dernière fois. Moi, mon coup de cœur, c'est toujours Paper Tiger de James Gray pour les mêmes raisons. Le fait que je trouve que le film brille vraiment par sa mise en scène principalement, parce que j'ai envie de voir James Gray récompensé aussi. Donc voilà, là, je reste là-dessus. Par contre, pour le pronostic, la dernière fois, j'avais dit Hope de Na Hong Jin. Je pense que là, le jury va laisser ça de côté. Parce qu'en fait, dans les petits calculs pour essayer de récompenser un peu tout le monde, je pense que c'est assez compliqué cette année. Et je pense que du coup, à la mise en scène, c'est Fjord qui va s'en tirer de ce côté-là. Alors j'avais loué la dernière fois le scénario que je trouvais assez impressionnant de Fjord. D'ailleurs, je lui avais donné mon prix. Mais voilà, en refaisant les calculs avec le reste de la compétition qu'on a pu découvrir et rattraper, je pense que s'il y a un endroit où il va être récompensé, c'est ici. Et je me dis qu'en fait, c'est une bonne manière aussi de récompenser toute la subtilité et la précision de la mise en scène de Moonju, et que le jury sera, je pense, pas insensible. Bon, d'autant plus que le film, comme d'autres dans cette sélection, fait partie, je trouve, des films de festival un peu taillés pour ce genre de prix. Donc voilà, pronostic Fjord et choix du cœur, Paper Tiger.
C'est pas moi qui vais te dire le contraire pour Fjord, dont je loue admirablement la mise en scène, mais comme je vais le mettre ailleurs dans ce tableau, je vais essayer de garder un petit peu de diversité quand même. La mise en scène ultra précise, naturaliste et touchante de Fjord, à mon sens, devrait être effectivement récompensée. Non, Fjord, je le mettrai dans le scénario, justement. Je le mettrai dans le scénario parce que il fait partie de ces films, de la compétition, il y en a très peu, qui ont réussi au moins à vraiment m'interroger tout du long du film, à me mettre mal à l'aise, me forcer à sortir de mes retranchements personnel, politique, de valeurs, idéologiques même, nous faire suivre une famille donc aux valeurs extrêmement conservatrices qui se retrouve discriminée à la fois parce que c'est une famille à moitié roumaine donc en Norvège et aussi par une espèce de d'aveuglement progressiste et insensible à la réalité. Je trouve que ce film a le don d'être très fort sur là-dessus sans forcément d'ailleurs renvoyer les extrêmes entre guillemets dos à dos uniquement ou comme le feraient certains réalisateurs cyniques. Là il arrive à quand même nuancer un petit peu son propos. En conférence de presse, il a dit par exemple qu'un tel film évidemment que il ne pouvait le tourner que dans un pays démocratique par exemple, etc. et que c'était ça aussi l'importance de la liberté de proposer des choses, des scénarios justement, d'expression. Et puis enfin, ce qui empêche le truc d'être complètement cynique et juste un peu pénible, c'est qu'il propose une alternative, une échappée par des personnages, des arcs narratifs un peu souterrains qu'on révélera pas ici, donc qu'on évoquera peut-être dans l'émission. Qui font que pour tout ça, Fjord, c'est un scénario en béton, calibré pour le festival les festivals comme tu l'as dit Aubry, et qui méritera d'être récompensé. Maintenant, mon pronostic, je pense que c'est pas forcément là que Fjord sera récompensé. Je pense que L'Inconnu, en revanche, pourrait gagner le prix du scénario. Assez légitimement, hein, d'autant plus que certes c'est un scénario adapté, mais c'est un scénario adapté d'un roman graphique écrit par le réalisateur, co-écrit par le réalisateur, donc ce serait pas complètement scandaleux. Et puis, voilà, il y a quelque chose de très intéressant aussi qui se fait là-dedans sur des jeux de fausses pistes, d'ouvrir toutes les virtualités contenues dans le genre du body swap pour aller nous emmener sur des terrains différents, sur des terrains de l'émotion, de quitter le genre pour aller vers plus quelque chose de mélodramatique, dans le bon sens du terme. Et voilà, c'est un scénario à la fois complexe, captivant et stimulant, parce que vraiment on a envie de savoir ce qui va se passer et on est toujours décontenancé, qui à mon sens pourra convaincre assez généralement un jury, là où peut-être que celui de Fjord a des ambiguïtés qui interrogeront peut-être plus largement 9 personnes que l'inconnu, qui a un petit côté tout simplement divertissant, qui l'assume et qui est fort.
Pour ma part, le prix du scénario, moi, mon choix de cœur, il va aller à L'Inconnu d'Arthur Harari, pour toutes les raisons que tu as évoquées, et parce que je trouve que, je pense que le film n'ira pas plus loin dans les prix. Je pense qu'il ne trustera pas les 3 prix principaux. Et je trouve que, voilà, s'il y a un prix du coup auquel il peut prétendre, en plus de l'interprétation féminine pour Léa Seydoux, c'est bien son scénario. Je trouve qu'il y a des idées géniales dedans, qu'il fait ça de façon très fine, très juste, et qu'il a pour lui, on va dire, cette espèce d'originalité et d'étrangeté au sein de la compétition. Donc voilà, ce serait mon choix de cœur. Par contre, petite nouveauté, c'est que je pense que le jury va décerner ce prix-là à Amarga Navidad de Pedro Almodovar, ou Autofiction du coup en français, parce que voilà, le film d'Almodovar est construit autour d'une série d'enchâssements et de mise en abîme entre un cinéaste qui écrit son prochain film dans lequel le personnage principal est elle-même une cinéaste qui cherche à écrire son prochain film. Et disons qu'en fait, moi, c'est le genre d'artifice qui ne m'a pas vraiment touché. Même, enfin, on aura l'occasion d'en reparler, mais le film nous a pas emporté de façon générale. On est plutôt resté poliment en dehors. Mais par contre, voilà, je trouve que, enfin, surtout avec les retours presse qu'il a eu, en particulier en France, je trouve que qu'il peut bénéficier de ce prix du scénario-là à cet endroit-là. Il est plutôt bien ficelé. Ça fonctionne plutôt bien et on va dire que la critique a l'air d'y trouver son compte, donc pourquoi pas un prix du scénario pour Pedro Almodovar. Donc
et on arrive donc dans les trois derniers prix, prix du jury, grand prix et Palme d'Or. En réalité, moi j'avoue que mon prix du jury et mon grand prix rêvé sont, comment dire, interchangeables. Je n'arrive pas exactement à décider où je voudrais que quel film soit, donc on va dire que je vais mettre Fjord en prix du jury. Vous découvrirez le grand prix dans quelques instants. Je vais mettre Fjord en prix du jury, voilà, parce que tu l'as dit, Aubry, on a dit c'est un film à festival. Je pense que voilà, s'il n'avait pas été à Cannes, il aurait été à Venise, il aurait été récompensé à Venise, il aurait pu être tout à fait récompensé à Berlin. Enfin, c'est globalement un film un peu assez asymptomatique de ce que tu disais, Aubry, du début, et qui en fait est aussi significatif d'un manque d'identité de la part de la sélection du Festival de Cannes cette année, en tout cas. Et que vraiment, moi je trouve que c'est un très grand film, donc mais que voilà, je n'élaborerai pas plus, on en a déjà beaucoup parlé. En revanche, le pronostic, je pense que voilà, ce prix du jury, il ira à Paper Tiger de James Gray, qui mériterait d'être récompensé. Et je pense que juste là, c'est l'endroit où le jury pourrait le mettre, parce qu'il pourrait être sensible à ce cinéma américain indépendant qui n'existe quasiment plus, qui se bat pour survivre, donc personne en Amérique aux États-Unis ne veut financer, et dont James Gray assure une certaine qualité, une qualité à laquelle on peut reprocher assez peu de choses, enfin, rien qu'elle ne ferait mal, en tout cas, peut-être des choses qu'elle ne ferait pas assez. Donc, à ce titre, Paper Tiger, pour les performances des acteurs et des actrices, pour son histoire très classique, voilà, mériterait un prix du jury, certainement pas plus, et peut-être pas autre chose.
Alors moi, j'ai un peu changé la donne, toujours. En fait, il y a eu des petits décalages, vous l'aurez compris, avec quelques visionnages qui sont tenus entre-temps. Mon prix du jury, personnellement, il va à Fatherland de Pavel Pavlikovski. Et je préviens tout de suite, parce que mon pronostic va au contraire à Soudain de Ryusuke Hamaguchi. En fait, vous l'aurez peut-être deviné si vous vous souvenez de mes pronostics de la dernière émission. Fatherland, je pense que Fatherland repartira bredouille de ce festival. C'est un peu ma hot take. Je pense que le fait qu'il soit passé en tout début de festival, même s'il a bien marqué les esprits, le bloque un peu. Surtout qu'il y a pas mal de sérieux candidats qui sont posés entre temps. Mais voilà, Fatherland, du coup, c'est mon choix de cœur. Parce que moi, je reste quand même très impressionné par ce que fait le film. Et vous aurez l'occasion de le découvrir en écoutant la prochaine émission. Mais pour autant, voilà, je pense qu'il va, il va passer à la trappe, au profit notamment de Soudain de Ryusuke Hamaguchi. Qui, mine de rien, a un côté assez impressionnant par ses 3h12, par ses deux performances d'actrice, par les audaces qu'il se permet à l'écriture, à la mise en scène aussi, le temps qu'il prend, tout simplement. Et pareil, ça, je pense qu'en fait, ça peut impressionner facilement un jury de festival, tout en tenant compte de ce qu'il peut y avoir d'autre dans la compétition et de ce qu'il peut y avoir au-dessus. Donc voilà, pour ça, pronostic prix du jury, Soudain de Ryusuke Hamaguchi.
Et de retour, après une interruption normalement insensible dans l'enregistrement, mais réelle dans la vraie vie, nous avons quitté la terrasse des journalistes et nous trouvons maintenant dans la salle de Debussy où nous allons voir Aubry.
Les histoires de la nuit de Léa Misius, l'avant-dernier film de la compétition officielle.
Tout à fait, et l'avant-dernier film pour nous aussi, puisqu'on ira voir le dernier film tout à l'heure. Mais bref, pour terminer cet enregistrement et pouvoir vous permettre de l'écouter avant la révélation du palmarès, nous enregistrons 15 minutes avant le lancement de cette nouvelle séance. Alors, on en était, il me semble, au prix du jury. Tu venais de donner tes deux avis au Brie. C'est l'heure du Grand Prix. Pour toi, qui est-ce qui remportera le Grand Prix à Cannes et qui est-ce qui devrait le remporter ?
Alors, pour moi, mon Grand Prix à moi, j'en ai parlé un peu tout à l'heure pour le prix d'interprétation masculine, pour moi, mon Grand Prix, c'est Notre Salut de Emmanuel Mars. C'est un film qu'on a vu, je le disais hier soir, sous le coup de 22h. Et étonnamment, alors que j'enchaîne les défaites face au sommeil depuis quelques jours au festival, là j'ai tenu tout le film et ça m'a roulé dessus. C'est-à-dire que vraiment, il y avait de la fatigue aussi, mais en sortant de la salle un peu après... j'ai vraiment juste fondu en larmes sans savoir pourquoi. Et je trouve que le film a une force assez dingue, une créativité assez extraordinaire dans sa manière de filmer l'histoire passée au présent, de la revivifier par sa mise en scène. Et le côté en fait un peu improvisé, qui emprunte à plein d'influences complètement random comme la série. Les gens font beaucoup référence à The Office, par exemple, dans la manière dont c'est fait. Je trouve ça très très fort. Le film a pas mal marqué et je pense que malgré les limites qu'on a évoquées par rapport à son côté très film français et face à un jury international, ça ferait un très très beau Grand Prix pour moi. Cependant, avec un peu de rationalité et pour tous les arguments qu'on a évoqués contre, on va dire, la récompense du film, je pense que le jury va récompenser Minotaur d'Andrzej Zvaginsev, qui dans la compétition officielle est peut-être pour moi ce qui se rapproche le plus de l'archétype du film de festival, du film récompensable, qui est très très bien fait, qui a une mise en scène extrêmement précise, mais qui en même temps demeure très européen, assez froid, qui en gros moi à la fois m'a beaucoup intéressé et en même temps a eu quand même du mal à m'emporter, si ce n'est sur sa fin. Je vous laisserai écouter l'épisode dédié. Mais je pense que le jury va attribuer ce Grand Prix à Zvaginsev pour Minotaur.
Merci beaucoup. Alors, je te rejoins sur le souhait Notre Salut. Sincèrement, je pense que c'est un film immense et qui fait tout un tas d'innovations formelles et qui surtout est capital pour nous, pour la France à ce moment précis. Il met en
à un an des élections surtout. Emmanuel Mars le redisait à l'issue de la première en théâtre, en Grand Théâtre Lumière. Plus jamais ça, qui était plein de sens pour le coup.
Oui, absolument. Et vraiment, donc, il arrive surtout à plutôt que de, comment dire, convoquer des figures, des personnages extrêmement didactiques comme le faisait Giannoli dans Les Rayons et les Ombres. Là, il invente des formes, il fait surgir des musiques tout à fait anachroniques. Il utilise un personnage en fait qui a tenté d'importer le management à Vichy, et donc comme c'est ce management là qui a pris le pas sur nos vies, voire à ce titre les travaux de Chapoutot qui l'ont fait connaître, c'est très très fort, c'est très très intéressant. Maintenant, comme tu l'as dit, et comme je le craignais avant la séance et que mes craintes ont été entre guillemets renforcées, c'est un film très français qui dialogue avec toute une histoire du cinéma de la Seconde Guerre mondiale français, et donc je pense qu'un jury international comme celui de cette année qui n'a aucun membre français, après il a des personnalités proches francophones ou proches de la France, comme Laura Vandel qui est belge, etc. mais le film risque le film risque effectivement de passer un peu au-dessus peut-être du jury, comme il y a 23 ans l'avait fait Buongiorno Notte de Bellocchio à Venise. La presse italienne s'était extasiée sur le film qui retraçait l'enlèvement d'Aldo Moro par les Brigades Rouges, et ainsi proposait mais sur une forme tout à fait étonnante. Et les passerelles se font, il faudra écouter l'émission pour en parler. Bref, sur la forme, sur le fond, c'était très très intéressant. Et les Italiens, la presse italienne avait été dégoûtée que le Lion d'Or aille à l'époque au premier film d'Andrei Zvyagintsev, justement. Et pas à Bellocchio, mais en même temps, une membre du jury, une actrice espagnole, avait dit que le film ne parlait qu'aux Italiens. Et de fait, le film avait une démarche réparatrice spécifique aux Italiens. Et là, ce film-ci traite notre mémoire mal digérée de Vichy, loin de la résistance, etc., etc. Donc, je pense que moi, le Grand Prix ira à Fjord. On a assez parlé de ce film dans cette émission. Et les histoires de la nuit commencent dans 10 minutes. Donc, il faut qu'on avance. Aubry...
Je maintiens d'autant plus mon prono avec cette anecdote Bellocchio, parce que c'est encore Zvyagintsev qui va choper un Grand Prix du coup, donc pour moi c'est une raison de plus.
Voilà, pour le coup moi Zvyagintsev je le mettrai ailleurs et plus haut, il reste qu'un seul crochet. Mais voilà, Fjord, Grand Prix, ce sera tout à fait mérité, il l'aura, et on en a déjà parlé assez dans cette émission. Aubry, on en vient à la récompense suprême, de plus en plus de gens entrent dans la Debussy, soyons brefs. La Palme d'Or, et il me semble que d'ailleurs c'est la même, celle que tu souhaites et celle que tu pronostiques.
Alors ma Palme d'Or du 79e Festival de Cannes, édition 2026, je la décerne à L'être aimé de Rodrigo Sorogoyen, film qui m'a bouleversé, dont je suis toujours en fait tremblant à l'heure où je vous parle.
Pardon, je vais passer la parole à Aubry et non pas à ce random critique qui a adoré Sorogoyen, vu que c'est le cas de tout le monde. Aubry, quelle est ta Palme d'Or ?
Non, plus sérieusement, je reste sur mon pronostic, même si, comme vous l'avez compris, on a ajouté quelques films depuis la dernière fois, et notamment Notre Salut, qui tous les deux nous a pas mal bouleversés. Mais ouais, je reste sur Hope, qui, malgré toutes ses imperfections, et on en reparlait tout à l'heure, ne serait-ce qu'avec... avec Clément qu'on salue, malgré toutes les imperfections même techniques, scénaristiques, les manques du film, en fait je trouve ça tellement dingue que pour moi c'est le geste de lui donner une Palme d'Or en fait qui est important, plus que de savoir si c'est vraiment le meilleur film de cette compétition, et c'est pour ça que je pense, et c'est ma vraie hot take du festival, que le jury va bel et bien remettre une Palme d'Or coréenne 7 ans après Parasite et Bong Joon-ho, en l'occurrence à Naung Jin pour Hope.
Eh bien, Aubry, c'est une hot take. Dans quelques heures, vu que cette émission sortira samedi, demain, on le saura ou non si tu as raison. Moi, pour ne pas trop me dédire du pronostic de la semaine dernière et pas trop m'éloigner de vous, Claire et toi, je vais souhaiter une Palme d'Or à Hope, mais une Palme d'Or partagée. Voilà, je souhaite une Palme d'Or ex aequo qui serait donnée à Minotaur en complément de Hope.
C'est un peu ambitieux quand même, on est sur un yo-yo assez intense là.
Je sais, mais j'ai pas envie que Hope reparte avec un prix spécial du jury, une espèce de j'aimerais bien qu'il soit récompensé, on est d'accord, et en vérité je vois pas trop avec quoi d'autre qu'un prix spécial du jury.
En vrai on l'avait dit la dernière fois, il y avait la mise en scène si c'est ce que retient le jury et si ils lui font plaisir pour ça. Après j'avoue que c'est vrai, s'ils font comme avec Résurrection l'année dernière et qu'ils lui donnent en gros le prix en chocolat un peu exception, on n'a pas su comment te récompenser, donc on te fait un truc un peu tout fait. Pour le coup, ce serait vraiment décevant, et je trouve que ce serait un peu lâche en fait de choisir de pas vraiment récompenser un film comme ça, et en l'occurrence du genre, et lui donner une espèce de prix tout fait pour l'occasion.
Mais bref, pour en revenir à Minotaur, je trouve que Hope, on en a déjà parlé, Minotaur est un film voilà, que je trouve qui a tout pour être une superbe Palme d'Or. Il a, malgré tout, en dépit de son côté très froid, très anatomique presque, une accessibilité que je retrouve dans Anatomie d'une chute, par exemple. Je trouve que voilà, c'est un film du calibre d'Anatomie d'une chute, auquel voilà, j'avais été très sensible, évidemment, mais qui m'avait peut-être moins emporté qu'il ne l'avait convaincu. L'ensemble du public et des critiques il y a trois ans maintenant déjà. Et donc Minotaur me paraît ce film à la fois porteur d'une thèse puissante, sans non plus être trop démonstratif dans celle-ci, un film qui parvient à dialoguer avec l'histoire du cinéma brillamment, donc avec ce film de Chabrol, La femme infidèle, d'une mise en scène très très précise et qui en même temps l'enrichit, voilà, du contexte russo-ukrainien, en fait, mais surtout russe en l'occurrence ici. Il nous montre des personnages détestables, mais en même temps réels, concrets. Il raconte une histoire qu'on peut suivre. Enfin, pour toutes ces raisons, vraiment, Minotaur, je trouve que c'est un excellent film et ce sera une excellente Palme d'Or, puisque c'est également mon pronostic. Je pense qu'il ne l'aura pas avec Hope. Je souhaite qu'il l'ait avec Hope, mais je pense qu'il l'aura toute seule. Et ce serait particulièrement mérité pour Andrei Zagintsev.
Bon, j'avoue que avec toute la...
Bon, on est en train d'être coupé.
Bon, effectivement, on a été coupé par la mise en garde de la Debussy, mais on va terminer rapidement. Mais ouais, moi j'allais dire, avec toute l'affection que je peux avoir pour le film de Zagintsev, bon, ça m'emmerderait un peu plus comme Palme, parce que, en dépit de toutes ses qualités, ce serait vraiment récompenser le film de festival par excellence et le film d'auteur très européen par excellence, alors que c'est un peu le reproche qu'on a fait à la compétition. C'est pas celui qui l'est le plus, enfin, y a pire dans la sélection, mais pour moi ça serait un peu ça quand même.
Je suis pas d'accord pour le coup, parce que Zagintsev, il y a cette puissance du fait qu'il est russe et que ce n'est pas quelqu'un qui peut faire des films facilement, qui peut se permettre de divaguer comme Almodovar ou Sorogoyen avec plus ou moins de succès. Je trouve que voilà,
j'abonde dans ton sens.
C'est peut-être le film le plus politique du festival, de la compétition, pardon. Enfin, je veux dire, le plus directement en prise avec le monde, avec l'actualité. Et rien que pour ça, c'est important aussi. Je pense que voilà, le jury, il y a Paul Laverty dedans. Je pense qu'il est le scénariste de Ken Loach. Je pense que le jury, il sera à la recherche aussi d'œuvres qui peuvent parler un minimum du monde. Park Chan-wook, il a quand même affirmé en début de compétition que cinéma et politique ne devraient pas être dissociés. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal cette dissociation dans pas mal des films du festival. Donc rien que pour ça, en fait, juste parce que c'est un film qui se rappelle qu'il ne vit pas dans une bulle avec ses personnages, quelque chose d'assez loti, etc. Parce que dans sa création, ça a été complexe, parce qu'il a fallu reconstituer ça en Lettonie, parce que voilà, il a failli ne pas le faire, ce film, etc., etc. Certes, c'est un film de festival, mais je trouve que même Fjord aussi en est un, on l'a dit, mais il dépasse Fjord largement, puisqu'il arrive aussi à atteindre quelque chose dans son dernier plan, dans ce qu'il ajoute à Chabrol, d'assez fort, tout simplement. Et pour ça, pour moi, Minotaur emportera la Palme d'Or.
Et j'en profite pour terminer cette émission, pour saluer au passage toutes les salles qu'on a pu fréquenter pendant ce festival, à commencer par celle dans laquelle on se trouve, la Debussy, qui est probablement notre préférée, mais aussi la salle Bazin, la salle Buñuel, la salle Varda, le Grand Théâtre Lumière, le Studio 13, les salles du Cinéum, le Théâtre Croisette, aussi le Miramar. Voilà, merci aussi à tous les bénévoles et tous les gens qui ont travaillé sur le festival.
Heureusement qu'elles sont là, on est content de les croiser, on commence à reconnaître certains visages et sans eux ça tournerait pas.
Coucou au mec de la terrasse des festivals qui est vraiment notre bestie. Et voilà, merci pour tout, pour avoir encadré ces 10 jours.
Merci à vous de nous avoir écoutés, chers auditeurs et chères auditrices. On se retrouve à partir de demain pour un épisode format Rencontre à Cannes. Il y en aura deux dans cette série d'épisodes. Et puis, dès la semaine prochaine, vous pourrez commencer à entendre tout ça. D'ici là, portez-vous bien. Merci pour tout, la séance commence. Et à très vite sur Transistor. Cette émission reprend pour la troisième fois, ou débute pour la troisième fois, puisque bien, nous sommes de retour du Grand Théâtre Lumière, où nous venons à 1h du matin, nous venons de voir l'objet du délit d'Agnès Jaoui, mais ce n'est pas l'objet de cette reprise un peu impromptue du micro et de l'émission de pronostic. C'est simplement que, eh bien, pour une émission qui se veut un bilan du festival, de la compète, etc., et surtout une émission qui aimerait donner un peu dans le jeu des prédictions, on ne pouvait pas, après avoir vu en salle de Bussy du Palais des Festivals de Cannes, le film de Léa Misius, Histoire de la nuit, histoire au pluriel, on ne pouvait pas laisser l'émission telle que nous l'avons arrêtée à l'instant, pour vous, dans le montage à nouveau, puisque eh bien, ce film nous a tous les deux particulièrement convaincus, n'est-ce pas Aubry, à tel point que, à titre personnel, voilà, je tenais à annoncer ici que histoire que quelqu'un l'ait dit, vu que la presse est plutôt négative, enfin les retours positifs se trouvent peu à peu, mais dans l'ensemble, les gens sont quand même assez déçus par ce film. Eh bien, je voulais, moi, formuler le souhait qu'il remporte la Palme d'Or ou rien, mais je pense que ce n'est pas tout à fait impossible, dans la mesure où eh bien, le jury présidé par Park Chan-wook qui pourra être sensible aux gestes de films de genre que propose Léa Misius, qui se tient, qui à la fois ne sacrifie en rien une mise en scène exigeante, une mise composée, une réflexion assez puissante sur les points de vue des personnages et notamment sur le point de vue enfantin qui vient proposer un décalage assez fort dans un film qui traite d'une... Enfin, qui part du motif de la home invasion, donc des personnages étrangers à l'univers domestique violent cet univers-là souvent par des armes, souvent par des menaces, et à un moment ou un autre par de la violence. Eh bien, ici, on a un point de vue enfantin qui est assez bien restitué, qui rend avec justesse compte d'une fillette de la Gen Alpha, finalement, ce qui est assez difficile à faire au cinéma aujourd'hui, sans être gênant. Là, franchement, je trouve que le film est porté en plus par un super casting, qu'il s'agisse de Benoît Magimel, qui est très très bon en espèce de rôle héritier de Jean Gabin dans sa dernière manière, on va dire. Il en apprend à peu près les mimiques, le jeu, la carrure, il lui ressemble en fait presque, mais avec un côté sympathique et terrifiant de ce fait. En plus, il y a Bastien Bouillon qui, moi, arrivait à me surprendre, alors que, franchement, il y a eu une petite overdose de Bastien Bouillon l'année dernière. Il y a Afsia Herzi et puis Monica Bellucci. Et voilà, là, j'y repense. Mais c'est vraiment plus pour marquer le coup et signaler qu'on a bien vu ce film et qu'il a toute sa place dans ce palmarès fictif. Monica Bellucci, eh bien, elle est au cœur d'un arc narratif un peu parallèle et en même temps assez symptomatique d'un film qui met en place diverses choses à la fois, de manière très très juste, qui construit une tension puissante qui, moi, m'a emporté et à la sortie de laquelle j'étais tout simplement convaincu de pouvoir dire voilà, ça c'est la Palme d'Or que j'aimerais donner, parce que voilà, pour le geste, mais aussi parce que le film est vraiment très bon à mon sens. Je sais pas dans quelle mesure on sera trop suivi là-dessus, puisque le film a quand même été hué à sa fin, alors légèrement, mais hué quand même dans la salle de Bussy, donc en projection presse. Et rien que pour les, ne serait-ce que pour les réactions épidermiques qu'il provoque, eh bien je le trouve intéressant. Voilà pour Histoire de la nuit, qui donc serait dans mon palmarès la Palme d'Or, reléguant ainsi entre guillemets, hein, parce que le Grand Prix c'est quand même super, Zviagintsev en Grand Prix ex aequo avec Fjord de Christian Mundiu.
Écoute, je suis d'accord sur beaucoup de choses. Enfin, j'ai beaucoup 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 aimé le film de Léa Misius. Je trouve que de la même manière dont on parlait de Hope dans d'autres émissions, je trouve que ça fait un bien fou d'avoir un film de genre qui s'assume comme tel, qui assume son geste, qui assume sa violence, qui assume son pétage de câble formel, narratif. Bref, qui même, largué en dernier jour de compétition quand tout le monde est crevé, qu'il n'y a plus rien à bouffer et que tout le monde s'endort, vient quand même nous percuter. Et alors oui, en dépit des retours presse un peu désastreux pour l'instant, enfin pour une partie en tout cas, je trouve que c'est vraiment assez fort, surtout par rapport à la morosité, à la platitude du reste de la d'une bonne partie du reste de la compétition. On en parlait, mais même Moonju et Zviagintsev, aussi bien soit leur film, ça reste, à mon sens, des films de festival calibrés pour les prix qui seront donnés demain. Et un peu comme l'année dernière avec le film de Jafar Panahi, disons que c'est des films consensuels en contexte de festival ou en contexte de critique cinématographique, cinéma d'auteur, etc. Ce que je trouve n'est pas le film de Liam Isius, qu'on peut trouver comme étant juste peut-être un film de genre, juste une bonne série B. Au contraire, moi je trouve que c'est un film très bien foutu, très malin. Qui dispose plein de fils à tirer et très bien interprété à de nombreux égards, que ce soit du côté de la technique ou du côté de l'interprétation par les actrices. Cependant, j'ai plus de mal à lui trouver une place dans mon palmarès, dans le sens où ça me ferait très très plaisir qu'on le voit palmer demain, parce que je trouve que ce serait juste très chouette d'avoir une troisième palme d'or féminine et française en quelques années. Je trouve que surtout ça viendrait appuyer la palme d'or remise à Ducournau en 2021. Appuyer le fait que non, c'était pas forcément une sortie de route ou une erreur ou quoi, mais qu'il y a bien une voie pour récompenser des films de genre audacieux, peut-être un peu ratés aussi à Cannes. Mais voilà, je suis pas sûr de préférer le film pour la Palme d'Or à celui de Naong Jin, comme on le disait tout à l'heure. Et à ce moment-là, effectivement, pour le coup, je m'aligne plutôt sur le côté la palme ou rien, parce que je suis pas sûr que le film concourt pour autre chose. Le prix du jury et le grand prix étant plutôt... plus souvent, en tout cas, décerné à des films calibrés festival, auteurs assez occidentaux, bref. Donc voilà, pour moi, c'est un excellent film de fin de festival qui vraiment vient mettre le clou sur le truc. Après, de là à l'intégrer au palmarès, je trouve ça plus compliqué. Néanmoins, s'il a une bonne place, j'en serais excessivement content.
Et je le serais aussi. Moi, je pense qu'effectivement, il se tient plus sur la longueur que Hope, qui a trop de défauts. Et trop de faiblesses,
mais qui est plus original.
Oui, aussi, mais bon, qui, comment dire, la Palme d'Or récompense peut-être quand même un ensemble que je trouve vraiment plus complet chez Léa Misius, et qui, comme tu l'as dit, conclut très élégamment l'ensemble de cette deuxième semaine, quand même bien plus à la hauteur de nos attentes diverses que les premiers films, plus petits, plus modestes, et dont on vous invite à entendre la critique dans tous les épisodes qui sortiront bientôt. Merci de nous avoir suivis pour ces deux quasi-directs à Cannes. Navré pour cette petite interruption dans ce deuxième épisode de Pronostic, mais voilà, c'était pour vous parler de Histoire de la nuit de Léa Misius, et aussi pour vous prouver que si jamais demain il se trouve au palmarès, eh bien Transistor l'aura prédit. D'ici, on se retrouve donc très vite, et d'ici là, portez-vous bien, partagez-nous, écoutez-nous, podcastez-nous. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.